Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce samedi 7 mai 2022. Depuis une vingtaine de jours, la Turquie mène une opération militaire contre le nord de l'Irak avec la participation de commandos et de forces spéciales au moyen d'avions de guerre, de canons et de drones. L'opération vise officiellement à lutter contre le Parti des travailleurs du Kurdistan irakien, le PKK, la région de Kandil et la ville de Douk font régulièrement l'objet de raids d'Ankara. En effet, depuis ces dernières années, la Turquie avance de plus en plus profondément dans la région kurde du nord de l'Irak et construit des avant-postes militaires, des infrastructures, etc. Selon de nombreux analystes, il s'agit là d'indications que la Turquie planifie une présence à long terme dans cette région. À noter que la dernière offensive turque a été lancée 2 jours après une visite en Turquie du premier ministre du Kurdistan irakien. Et les deux parties ont convenu de construire une route de transit d'énergie par le biais d'un gazoduc et d'un oléoduc qui s'étendrait en effet jusqu'à la Turquie après l'achèvement de l'opération turque dans le nord de l'Irak. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur les principaux enjeux et objectifs de ces agressions turques contre le nord de l'Irak, mais aussi aux frontières, en effet, de la Syrie. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
La Turquie a lancé la nuit du dimanche à lundi 18 avril une nouvelle opération griffe-serrure contre les régions de Metina, Zap et Avashin Bassian, dans le nord de l'Irak, sous prétexte de réduire en tas de ruines les bastions du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK. Ces derniers jours, diverses zones dans la province de Douok, dans le Kurdistan irakien, ont été la cible des frappes aériennes de l'aviation turque. Selon les Peshmerga kurdes, des dizaines de villages ont été évacués et un grand nombre de leurs habitants ont été déplacés vers les zones frontalières. La Turquie a occupé de grands secteurs du nord-est, du nord et du nord-ouest de la province de Douok, notamment Zako et Soran, au cours des dernières années sous prétexte de lutter contre le terrorisme et l'insécurité dans les zones frontalières. L'offensive turque a été lancée 2 jours après une visite en Turquie du premier ministre du Kurdistan irakien, Masrour Barzani, ce qui laisse entendre qu'il aurait été mis au courant des intentions d'Ankara. Les deux parties ont convenu de construire une route de transit d'énergie par le biais d'un aléoduc et d'un gazoduc dans la région du Kurdistan qui s'étendrait jusqu'à la Turquie après l'achèvement de l'opération d'Ankara dans le nord de l'Irak. Le projet sera réalisé directement par la Turquie et la région du Kurdistan, tandis que le gouvernement central irakien, qui n'a même pas été tenu au courant de ces détails, sera privé des revenus qui en découlent. Après avoir atteint le sol turc, l'aléoduc et le gazoduc seront finalement divisés en 2 branches. L'une sera dirigée vers l'Europe et l'autre vers la Palestine occupée. Ces jours-ci, Ankara subit de fortes pressions en raison de l'effondrement de son économie. Il a désespérément besoin d'incitations financières pour s'émanciper de la crise. Il souhaite utiliser ce pipeline pour accéder à l'énergie bon marché, voire gratuite, pour résoudre certains de ses problèmes. Il va de soi que le régime sioniste est le principal bénéficiaire du projet en question, car il obtient gratuitement du pétrole et du gaz, et cet accord rend chaque jour les sionistes indépendants vis-à-vis des ressources énergétiques. Le plan de transfert d'énergie, qui doit être mis en œuvre à l'aide de la Turquie, montre d'une part les efforts tout azimut d'Erdogan pour gagner la confiance des sionistes. Il montre également que les Barzani entretiennent d'étroites relations avec le régime sioniste.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter tout de suite nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Bruxelles avec Luc Michel, géopoliticien, et depuis Vaucluse avec Bernard Cornu, analyste politique. Monsieur Cornu, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et à vos téléspectateurs.
Merci d'être en ligne avec nous. Monsieur Cornu, comme vous le savez, depuis le 18 avril, la Turquie mène une opération militaire aérienne et terrestre contre le nord de l'Irak sous prétexte de lutter contre le parti des travailleurs du Kurdistan irakien. Le scénario n'est pas nouveau, mais selon de nombreux analystes, l'opération en cours se différencie des précédentes. Pourquoi ?
Effectivement, ce n'est pas nouveau, puisque la Turquie a envahi des parties de la Syrie, a des positions militaires installées dans le nord de l'Irak, et plusieurs fois depuis 20 ou 30 ans, elle a fait des incursions militaires assez profondes dans le territoire irakien. Et en Syrie, actuellement, elle y est toujours. Son but stratégique, c'est évidemment d'empêcher la création d'un État turc indépendant qui serait en partie à cheval sur la Turquie, sur les territoires du sud-est turc, qui sont peuplés à majorité de populations turques kurdes, mais aussi sans doute avec des parties de territoires en Syrie et en Irak. Et le deuxième problème, c'est que le nord de l'Irak, qui a eu, grâce aux interventions des États-Unis depuis longtemps, qui a eu des velléités d'indépendance, qui a été soutenu par les efforts de la coalition menée par les États-Unis. Ce territoire irakien rendu autonome, après une phase d'ailleurs d'autonomie qui avait été concédée par le régime bassiste en 1970, les réformes constitutionnelles, veut essayer d'obtenir une autonomie économique. Et pour cela, il essaye de pouvoir exporter du pétrole et du gaz, mais ceci, c'est en contradiction avec la loi irakienne qui précise précisément, enfin, l'habitude des lois irakiennes, parce qu'en fait, la loi sur le pétrole, il y a eu beaucoup de tentatives depuis l'occupation américaine en 2003, mais il n'y a pas encore une nouvelle loi constituée à cause de ce différend avec les autorités du nord de l'Irak. Et donc, actuellement, c'est le gouvernement de Bagdad qui a le seul droit de signer des contrats d'exportation. Or, du temps de Trump, il y a déjà eu des contrats, d'ailleurs avec M. Tillerson, avant qu'il soit secrétaire d'État de Trump, il y a eu déjà des contrats de sociétés étrangères avec le gouvernement autonome kurde du nord de l'Irak, donc considérés illégaux par le gouvernement central de Bagdad. Donc en fait, la Turquie travaille avec ce gouvernement autonome kurde du nord de l'Irak, à condition que s'il y a une exportation, elle passe par la Turquie, ce qui fait que la Turquie aurait le contrôle de ses exportations, le contrôle de ses revenus, et pourrait, disons, tenir sous cette pression les autorités kurdes irakiennes et empêcher toute velléité de rapprochement avec des mouvements kurdes, notamment le PKK, dans le nord, dans le sud-est de la Turquie. Donc, vous voulez, c'est un double problème, un problème, disons, de régionalisation de ces pays, dans lequel il y a des différences ethniques et linguistiques en Turquie et à la fois en Syrie et en Irak, et aussi des problèmes de transition du pétrole et du gaz, de transit du pétrole et du gaz jusqu'à la Méditerranée, jusqu'à la marché. Et en plus, vous avez bien mentionné le jeu trouble, mais assez bien connu désormais, de l'État israélien, qui cherche depuis très longtemps à créer un État kurde derrière ses proches pays arabes, qu'il considère comme ennemis, et donc ils sont très influents dans cette région, avec des centaines de personnels officiellement ou de façon occultée, qui travaillent avec les autorités kurdes irakiennes, et pour pouvoir justement arriver à consolider, disons, essayé de consolider une tentative d'État kurde dans le nord de l'Irak. Et donc, d'ailleurs, se rappelle aussi ce qui s'est passé avec la progression de l'État islamique au printemps 2014, en juin 2014, quand il a soudainement progressé de Raqqa jusqu'à Mossoul et même au-delà. Et à cette époque, au mois de mars, il y avait eu d'ailleurs une descente de commandos djihadistes sur la ville de Kassab, en Syrie, tout près de la frontière irakienne, dans les montagnes à 1000 mètres d'altitude, un lieu de résidence des riches arméniens alépins d'Alep, à Alep. Et il y a eu beaucoup de massacres. Et ensuite, ce commando djihadiste est descendu jusqu'à la plage qu'on appelle de Ras El Bassit, c'est-à-dire entre Latakié et Antakya. Et en fait, à cette époque-là, si on regarde les cartes, on avait presque une continuité territoriale de différents mouvements djihadistes, mais tous en fait financés derrière par le Qatar et l'Arabie saoudite, surtout à l'époque, et aussi consolidés militairement par les différentes coalitions militaires installées dans la province d'Antioche, d'Antakya, en Turquie. Et en fait, à cette époque, la Turquie s'est rendue compte que tout ce plan des djihadistes en fait était manipulé par derrière, par des forces sans doute pétrolières, étrangères, pour essayer de créer un couloir continu entre le nord de l'Irak pétrolier, le nord kurde de l'Irak, et la Méditerranée, afin qu'il y ait une possibilité de pipeline de pétrole et éventuellement de gaz dans un territoire qui aurait été pris sur la Syrie, mais qui aurait été au sud de la frontière turque, donc qui permettait de créer un État sans qu'il dépende de la Turquie et qu'il ne dépende pas de la Syrie non plus, parce qu'à l'époque, on considérait que la Syrie devait être punie pour sa guerre civile ou pour ses répressions des manifestations. Et donc, à l'époque, donc au printemps 14, il y avait cette possibilité d'un couloir continu.
Merci.
Mais la Turquie s'est rendue compte de tout cela, et elle a complètement changé de position, et même c'est à ces périodes-là qu'elle a décidé d'envoyer des parties de la Syrie pour empêcher cette continuité kurde depuis, disons, Erbil et jusqu'à la Méditerranée.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous, Monsieur Cornu. On va tout de suite se rendre à Bruxelles pour rejoindre Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Allô, Monsieur Michel, est-ce que vous nous entendez? Allô? Apparemment, nous avons un souci de liaison. Monsieur Michel, est-ce que vous nous entendez?
Si Monsieur Michel n'est pas là...
Voilà, je vais vous poser, monsieur, en attendant que notre contact soit rétabli avec monsieur Michel, je vais vous poser une deuxième question, monsieur Cornu. Justement, alors concernant cette modification, si on peut dire, géostratégique, à laquelle aspire en effet la Turquie d'Erdogan, une modification animée par la mémoire de l'Empire ottoman, à la fois aux frontières du nord de l'Irak, mais aussi du nord de la Syrie. Donc là, il paraît qu'en effet, les velléités d'Erdogan dépassent largement un projet de transit de gaz et visent en effet, une présence à long terme aux frontières des deux pays.
Alors, vous avez raison d'évoquer... La mémoire de l'Empire ottoman qui contrôlait toute cette région pendant plusieurs siècles, mais aussi la mémoire du traité de Sèvres qui n'a pas été appliqué, mais qui prévoyait un démantèlement complet de l'Anatolie et la distribution de territoires très larges de cette partie actuelle de la Turquie à la Grèce, à l'Italie, à la France, à l'Angleterre. Et donc il y a cette double mémoire de grandeur, mais aussi de crainte d'un démantèlement sous la pression des Occidentaux, à cette période-là. Bon. Mais ce qui est peut-être rassurant, c'est qu'il y a quelques semaines, début avril, le président Erdogan lui-même a fait savoir qu'il souhaitait arranger la situation avec la Syrie. Et je crois que la crise économique, la perspective l'année prochaine d'élections présidentielles en 2023, pousse un peu, je crois, la Turquie à mettre, je dirais, de l'eau dans son vin ou d'essayer d'apaiser ses relations avec ses voisins. Elle a déjà commencé avec l'Arabie saoudite, avec Abu Dhabi, les Émirats arabes unis, et elle essayera certainement aussi avec la Syrie. C'est plus difficile parce que le contentieux est lourd, date de plusieurs années de guerre, d'invasion et de présence continue d'ailleurs de la Turquie dans le nord de la Syrie. Mais je ne crois pas qu'elle cherche à aller plus loin. Il y a quand même un principe du droit international que les frontières sont intangibles. Ça a été dit plusieurs fois même par la Turquie lors des négociations d'Astana ou des négociations sur le devenir de la Syrie. Donc je ne pense pas qu'on aille jusqu'à cette catastrophe que serait une nouvelle guerre. C'est Merci. Vrai qu'il y a des escarmouches, il y a une absence de règlement des situations dans le nord de l'Irak et dans le nord de la Syrie. Il y a un conflit d'intérêts économiques à la fois entre le gaz et le pétrole, entre la Turquie et la Syrie, pour être un hub pétrolier, aussi d'ailleurs avec la Grèce, qui prétend aussi être qui a déjà des ports de liquéfaction, de réception du gaz liquéfié. Donc oui, il y a tous ces enjeux énergétiques et territoriaux, linguistiques, ethniques, mais je pense que, vous savez, vous le rappelez, le 26 avril, lors de sa conférence de presse, le ministre Lavrov a commencé par dire qu'avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ils ont aussi parlé de la Syrie, de la Libye et de l'ensemble du Proche-Orient. Donc pour, je pense, évoquer les différentes pistes de solution de cette
Merci,
vieille tragédie
monsieur.
Du Moyen-Orient.
Merci infiniment, merci beaucoup. Voilà, nous sommes en ligne à présent avec Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Monsieur Michel, bonjour, merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour à votre équipe et à vos téléspectateurs.
Monsieur Michel, avec Monsieur Cornu, nous avons abordé en effet les enjeux énergétiques, les enjeux territoriaux et ethniques, mais aussi linguistiques de la récente opération, en effet, turque, de l'opération en effet militaire, des agressions en général turques contre le nord de l'Irak, mais aussi le nord de la Syrie. Alors, deux questions. D'abord, pourquoi ce manque d'action et de cohérence de la part du gouvernement irakien? Et deuxièmement, alors, que pensez-vous de l'implication d'Israël dans ce projet, notamment dans ce projet de transit d'énergie depuis le nord de l'Irak jusqu'à la Méditerranée?
Il faut comprendre quel est le rôle géopolitique de la Turquie d'Erdogan. Beaucoup de soutiens d'Erdogan prétendent qu'il aurait une politique qui serait en train de s'émanciper. En fait, il est l'allié étroit et l'agent d'influence des Américains au sein de l'OTAN, que ce soit en Afrique, au Proche-Orient, en Méditerranée. Et il est en Proche-Orient doublé d'une allégeance à Israël. Quel est le projet d'Erdogan? Il est mal compris. Lorsqu'il parle de néo-ottomanisme, la plupart des observateurs croient qu'il veut reconstituer l'Empire ottoman. En fait, ce qu'il veut, c'est reconstituer une sphère d'influence géopolitique et géoéconomique qui recouvre les anciens territoires ottomans. Et ce projet, il est possible que sous parapluie américain. Il est possible dans le cadre de ce qu'on appelait sous George Bush II, le Douvain, le grand Moyen-Orient, qui est une zone qui allait du Maroc jusque la centrale, et dont les printemps arabes et les printemps africains ont été en 2011 et 2014 les héritiers. Dans ce projet-là, on ne comprend pas l'opposition d'Erdogan aux Kurdes. Du temps du pouvoir kémaliste, des militaires kémalistes, c'était une opposition à tout ce qui était kurde. Mais Erdogan est beaucoup plus subtil. Il est opposé à un État constitué autour du PKK, qui est son adversaire historique, mais il n'est pas opposé à l'existence d'un État fantoche-turc dans le Kurdistan irakien. Le Kurdistan irakien, c'est l'exemple même des produits de la géopolitique américaine du Grand Moyen-Orient. C'est une partie de l'Irak qui était détachée au milieu des années 90, de l'allégeance à Bagdad, couvert par une zone d'exclusion aérienne, et qui depuis est un État dans l'État, indépendant de Bagdad, et qui fait tout ce qui est possible pour saboter le pouvoir de Bagdad. Dans cette optique, cet État fantoche du Kurdistan irakien, qui cadre parfaitement avec le projet de sphère géopolitique d'Erdogan, et il cadre également avec les projets israéliens. Actuellement, Erdogan est engagé, malgré ses belles promesses avec Moscou, il est engagé à un soutien à l'Ukraine, et précisément, c'est les fournitures de gaz pour substituer le gaz que les Russes ne fourniront plus à l'Europe dans le cadre du dossier ukrainien qu'intervient l'intervention d'Erdogan au Kurdistan irakien. Il s'agit pas de plus de s'opposer aux intérêts géopolitiques de la Russie. Et je pense qu'à Moscou, on commence à comprendre le jeu d'Erdogan et à se détacher de celui-là. Mais ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est qu'on parlait au XIXe siècle de la duplicité levantine à propos de la géopolitique de l'Empire ottoman. Avec Erdogan, évidemment, cette duplicité levantine, ces coups de poker géopolitiques, ces retournements intéressés, on est en plein devant la résurrection de cette politique ambiguë turque.
Justement, monsieur Michel, puisqu'on est là, quelles seront les répercussions, en effet, géopolitiques de l'agression turque, de cette approche, en effet, intégrée, mais aussi agressive de la Turquie contre le nord de l'Irak, mais aussi le nord de la Syrie. Quelles en seront les répercussions géopolitiques dans le contexte de la guerre en Ukraine sur le marché énergétique mondial et dans les relations entre Ankara et Moscou?
On est dans un contexte géopolitique qui est profondément changé depuis le début de l'intervention russe en Ukraine. Tout d'abord, il y avait cette espèce de neutralité entre Moscou et Israël qui n'existe plus, puisque Israël soutient Zelensky et en plus paraît d'avoir une espèce de projet sioniste qui voudrait faire de la Turquie une espèce de grand Israël anti-russe aux portes de la Russie. Mais la deuxième chose, évidemment, c'est que Moscou a commis une erreur en s'engageant aux côtés de Zelensky en fournissant des armements qui tuent des soldats. La Russie en a pas de cette publicité, évidemment. Et on oublie que dans les accords d'assemblée de Sochi, il y avait un côté partenaire qui est l'Iran. L'Iran non plus n'est plus décidé à accepter la publicité. Je pense donc que le projet de toute l'intervention au Irak qui vise à fournir à l'Europe un gaz, c'est payant le gaz qui ne sera plus fourni par la Russie et dont le but c'est de ruiner l'économie russe, et évidemment, c'est très mal vu par la Russie et ça ne sera plus accepté. Je pense que l'Erdogan a été un bon problème mondial aux États-Unis et aujourd'hui, évidemment, il s'est mis dans une émotion politique. Il va perdre dans le dossier franco-oriental, il va perdre dans le dossier syrien et il va perdre dans le dossier ukrainien. À cela s'ajoute évidemment le soutien de la Turquie à l'Azerbaïdjan. Le dossier azerbaïdjanais qui est en train de mal tourner face à Moscou. N'oublions pas qu'il a déployé des casques bleus à la grande colère d'Ankara au Karabakh.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, Bernard Cornu, écrivain et géopolitologue depuis Vaucluse, je vous remercie infiniment d'avoir apporté ces éclairages à cette émission. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.